L'amnésie traumatique oubliée pour se protéger. Nous sommes ici au dernier stade du choc émotionnel et de l'activation de l'amygdale. Elle s'emballe tellement qu'elle inhibe complètement l'hippocampe et coupe la communication avec le cortex préfrontal. Le souvenir traumatique est bien présent physiquement dans le cerveau, mal encodé comme on vient de le voir, mais notre conscience n'y a plus accès. Il s'agit d'un mécanisme dissociatif mis en place par le cerveau pour nous épargner les souffrances intolérables à la pensée de ce souvenir. Dans les cas rapportés par la neurologue Catherine Thomas-Antérion, il s'agit de situations qui engendrent un stress intense. Agression sexuelle non verbalisée, pendant l'enfance par exemple. Violence subie, mais aussi émise. Un agresseur pouvant aussi vivre une amnésie traumatique. Le souvenir peut ressurgir brusquement des décennies plus tard, la récupération étant déclenchée par un indice d'apparence anodine, mais qui fait sens dans le souvenir enfoui. Encore mal connu et mal diagnostiqué, l'amnésie traumatique garde de nombreuses zones d'ombre. Si l'amnésie traumatique est le point d'orgue de la dynamique entre mémoire et oubli, au quotidien, ces deux-là sont bien plus complémentaires qu'il n'y paraît. Vrai ou faux oubli, ils jalonnent, comme les émotions, toutes les étapes de la mémorisation. Oublier un mécanisme vital. Pour bien mémoriser, il faut bien oublier. Il y a plusieurs types d'oubli. Ils interviennent tout au long du processus de mémorisation. C'est simple, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut oublier pour mémoriser. Le premier oubli majeur est celui de votre mémoire perceptive fugace. Bombardé en permanence de milliers d'informations, notre cerveau ne retient que celles qui sont potentiellement importantes. Comme tout mammifère, notre survie dépend entre autres de la captation des signaux de danger. Un prédateur assoiffé de sang qui jaillit des bois ou une voiture échappée de Fast and Furious qui surgit alors que vous traversez paisiblement la rue, baguette sous le bras et béret sur la tête. Or, si nous devions retenir indifféremment tous les signaux qui nous entourent, comme la présence de chaque brin d'herbe de la prairie ou de chaque pavé de la chaussée, les signaux importants seraient noyés dans la masse. Séparer le bon grain de l'ivraie, hiérarchiser les infos et n'alerter le cerveau que lorsque c'est nécessaire, voilà le rôle capital de ce premier oubli sélectif. Deuxième oubli et deuxième tri, au moment de l'encodage. Nous l'avons vu, l'hippocampe, le physio du club des mémoires, ne sélectionne qu'une partie des informations, encore une fois celles qui lui semblent les plus pertinentes. Il oublie le reste. Cette idée de ne conserver que l'essentiel pour se débarrasser du superflu est primordiale. Notre cerveau est comme un disque dur, il a des ressources limitées. Mieux vaut éviter de le saturer avec des données qui ne serviront probablement jamais, au risque de le faire bugger. Pas la peine donc de vous rappeler tous les jours du trajet exact que vous avez pris pour aller à la boulangerie ni de la conversation détaillée avec la personne qui vous a démarché au téléphone. Non, vous n'aviez pas besoin de double vitrage. À cette étape, un défaut d'attention ou d'émotion, indispensable à un bon encodage, peut aussi vous faire oublier quelque chose. Si vous écoutez d'une oreille distraite, un œil rivé sur les résultats du match, votre belle-mère qui vous raconte une histoire soporifique, il n'y a pas de mystère, vous n'allez rien ou mal enregistrer. Plus tard, vous vous direz « j'ai oublié ce qu'elle m'a raconté, mince !» Ou pas. Plus qu'oublié, son propos n'aura tout simplement jamais été encodé. Il n'aura littéralement laissé aucune trace dans votre cerveau ou alors trop parcellaire. Pas la peine de vous creuser les méninges pour essayer de vous rappeler ce qu'elle vous a dit à propos des vacances. Une info non encodée ne sera pas stockée, donc jamais récupérable. La troisième phase d'oubli a lieu pendant le stockage. La nuit, votre cerveau opère un nouveau tri dans les traces mnésiques de la journée. Il consolide celles qui sont utiles et efface les autres. Au fil du temps, les souvenirs qui ne sont pas réactivés régulièrement s'estompent. Autre cas, quand vos souvenirs épisodiques se sémantisent, les aspects contextuels, les dates et lieux de votre cours de maths ou de gym, disparaissent pour ne garder que l'essentiel. Le savoir, ou le savoir-faire en question. Le théorème de Thalès ou le double flip arrière, lucky you. Le stockage peut être perturbé par un manque de sommeil. Vous aviez bien révisé vos cours, bien encodé l'info, mais après quelques nuits trop courtes, voire blanches, il n'en reste plus grand-chose. Vous avez oublié ce que vous aviez appris. Dans ce cas précis, vous ne l'avez pas correctement stocké dans votre mémoire à long terme. Un souvenir pas ou mal stocké ne sera pas non plus récupérable. Vient enfin la dernière phase, celle de la récupération. Et avec un autre type d'oubli. On a vu que notre mémoire fonctionnait par association. Il suffit de lui donner un indice, un fil à tirer, pour que les autres éléments du souvenir ressurgissent avec lui. Si par exemple vous avez correctement encodé l'information « J'ai rendez-vous chez le dentiste mardi 15 à 11h », puis que vous avez bien dormi ou répété cette info, quand votre cerveau prendra conscience que c'est le mardi 15, peut-être entendrez-vous la date à la radio ou la verrez-vous sur votre téléphone au réveil. Cet indice fera ressurgir le reste du souvenir, votre rendez-vous chez le dentiste à 11h. Mais si vous n'entendez pas ou ne pensez pas à la date du jour, si vous êtes ce matin-là préoccupé par autre chose, un problème à résoudre ou même plongé dans un bon bouquin ou une bonne série. Bref, si l'indice ne vous parvient pas à temps, vous oubliez le rendez-vous.
Permets-moi de t'interrompre le temps d'une astuce, Michel. En parlant de rendez-vous et d'agenda, j'ai une astuce qui va vous servir tous les jours, qui va vous faire gagner du temps et qui permet de garder son cerveau jeune. Astuce 8. Comment mémoriser son agenda ? Grâce à cette technique, vous allez être en mesure de connaître vos plannings personnels ou professionnels pour la période de votre choix. Pour ma part, je m'en suis beaucoup servi pour maîtriser mes itinéraires de tournées de spectacles et de conférences pour n'importe quel mois de l'année active. Évidemment, je pars du prérequis que vous possédez déjà un agenda, papier ou numérique, et que vous avez organisé. Pour l'imprimer dans votre tête, il faut déjà qu'il existe. Vous allez avoir le choix entre trois durées d'information à retenir. Le planning de votre journée, idéal pour commencer. Le planning de votre semaine, pratique et bien pour travailler ses capacités de mémorisation. Le planning de votre année, idéal pour faire votre petit intéressant lors d'un dîner. Dans les trois cas, nous allons mixer ensemble votre palais mental, ou un que vous construirez pour l'occasion, avec des histoires mentales et la technique de la table de rappel, que nous verrons plus en détail dans l'astuce 11. 1. L'agenda de votre journée. Je vous recommande de le faire à l'un des deux extrêmes de votre journée, soit le soir, juste avant d'aller vous coucher, soit le matin en vous levant, sous réserve que vous ayez prévu assez de temps pour garder votre attention. Vous devez regarder votre agenda, noter mentalement les points clés et construire une histoire mentale amusante, la plus loufoque possible, dans le but de stimuler vos émotions positives. Pour retenir les heures, vous pourrez utiliser les associations d'idées ou, plus tard, l'astuce 11. Prenons un exemple. 9h, cours de conversation d'anglais. Écriture du livre. 13h, déjeuner avec Michel. Poster le courrier. 16h, rendez-vous avec l'équipe pour le spectacle. 20h, rendez-vous téléphonique pour le livre. Je vais imaginer la chose suivante. La reine d'Angleterre, cours d'anglais, reçoit des G2, œuf me fait penser à 9h, sur sa robe. Elle s'essuie en arrachant les pages d'un livre, écrire le livre. La couverture du livre est une photo de Michel sur le port de Marseille. Marseille me fait penser à 13h. La couverture se détache et se plie pour se transformer en avion en papier jaune, comme celui de la poste, passé à la poste. L'avion se pose sur un camion du SAMU. Le SAMU me fait penser à 15h. En regardant de plus près, c'est Diablo, mon régisseur de spectacle. Rendez-vous équipe pour le spectacle, qui conduit le camion. Diablo habite en Charente, donc je vais penser à 16h. Le camion repart et Diablo se met à boire du vin en conduisant. 20 me fait penser à 20h, pendant que des infirmiers à l'arrière tente de réanimer un livre géant. Rendez-vous pour le livre. Aujourd'hui, je suis rodé. Il me faut à peine quelques minutes pour imaginer ce genre d'histoire spontanément. Je ne cherche pas à la retenir, je l'imagine avec attention et je la retiens. Si des choses se modifient, s'ajoutent ou s'annulent, il me suffit alors de modifier mon scénario en conséquence. Pour vos premières fois, il vous faudra certainement 5 bonnes minutes. Prenez le temps et plus vous le ferez, plus vous développerez un automatisme créatif. 2. L'agenda de votre semaine. Vous venez de réussir à retenir votre journée avec une petite histoire amusante, moyennant quelques minutes. Logiquement, il suffit de faire cet exercice 6 fois de plus et vous aurez une semaine entière dans votre tête. C'est ce que vous allez faire en utilisant l'astuce 4, le palais mental. S'il ne comporte qu'une seule pièce, je vous recommande d'en imaginer un avec 7 pièces ou, à minima, plusieurs pièces où vous pourrez trouver 7 spots bien distincts. Imaginez ensuite une histoire qui correspond à votre agenda pour chaque jour de la semaine. Faites correspondre ces histoires avec les spots. Si je reprends l'exemple précédent, je commencerai par imaginer la reine d'Angleterre en train de rentrer dans ma chambre, si mon premier spot est l'entrée de ma chambre. Vous pourrez facilement modifier vos histoires au fur et à mesure des nouveaux impératifs de votre semaine ou selon les modifications de votre agenda. Dernier point très utile, choisissez une image unique qui va vous servir de symbole. Un objet symbolique qui voudra dire que vous n'avez rien de prévu ce jour-là. Placez-le mentalement sur les spots des jours où vous n'avez pas de rendez-vous. Et lorsque vous irez dans votre palais mental, vous aurez la certitude de n'avoir rien oublié et qu'il s'agit bien d'une journée libre. 3. L'agenda de votre année. Alors là, attention, on rentre dans la performance. Ne vous sentez pas obligé de le faire. Je l'explique pour les plus motivés d'entre vous, mais également pour être exhaustif. Imaginez un palais mental avec 12 spots bien identifiés. Utilisez un palais consacré à ça, impossible de s'en servir pour autre chose durant l'année. Évidemment, vous n'allez pas rentrer l'agenda de chacune de vos journées, puisque ce serait très encombré, un peu inutile, et qu'il y a de fortes chances pour que votre agenda soit vierge pour le mercredi dans 8 mois. Dans ce palais, vous allez placer des anniversaires, des déplacements, des faits marquants, des mariages, etc. Pour ma part, j'y ai placé mes dates de tournée pendant des années pour savoir si j'étais chez moi ou, le cas échéant, dans quelle ville. Exemple. L'anniversaire de Baptiste est le 21 octobre. Je vais à la 10e étape de mon palais mental, en l'occurrence, c'est mon 10e logement, car depuis le début de ma vie, j'ai vécu à 12 endroits différents. C'est donc pratique. Sans ordre précis, je dépose lors de ma balade mentale dans cet appartement tout ce qui est en rapport avec octobre. Et je retrouve mon ami Baptiste dans sa baignoire, en train de regarder flotter un gâteau sur lequel slalome un mini-train entre les bougies. Soit octobre, Baptiste, anniversaire, 21. C'est là que je sais que vous vous dites « Mais pourquoi un train ?» J'utilise la méthode que je décris dans l'astuce 11, une astuce puissante pour retenir les chiffres et les nombres en les transformant en images. Et puisque Michel était en train de vous parler des oublis, je vais vous donner une autre astuce plus légère à mettre en place. Vous vous souvenez de cette jungle que j'évoquais il y a quelques chapitres? Si le chemin peut être altéré par la repousse des végétaux, les lieux dans la jungle n'ont pas disparu pour autant. Il devient juste plus compliqué, plus laborieux, de retrouver la route pour y accéder. La fonction première de mes astuces est de baliser ce chemin, un peu comme si je déposais des flambeaux tout au long du parcours et un panneau qui clignote sur le point de départ. Tout ce que vous mettrez en place vous aidera à retrouver l'itinéraire jusqu'à votre souvenir, qu'il soit épisodique ou sémantique. C'est le principe de la pelote de laine. Si vous pouvez trouver le bon bout, alors vous pourrez ensuite la dérouler plus facilement. Astuce 9. Comment se souvenir de faire quelque chose? Imaginiez-vous que vous pouviez volontairement programmer un rappel dans votre mémoire. C'est pourtant le cas. Comme si vous le faisiez avec une application sur votre smartphone, mais directement dans votre esprit. Ces techniques sont pratiques pour se rappeler que vous devez vous souvenir de quelque chose. Mais comme le rappelle tout dans Harry Potter, Encore faut-il se rappeler ce à quoi vous deviez penser. Vous allez pouvoir vous programmer un rappel simple, unique, ponctuel, mais aussi une alerte récurrente qui viendra plusieurs fois titiller votre conscience au bon moment. Dans les deux cas, ces rappels ne fonctionnent qu'à une seule condition, que vous soyez dans le moment présent, c'est-à-dire que vous portiez votre attention sur ce qui se passe autour de vous. Car ces deux rappels sont liés à votre environnement et en l'ignorant, vous parasitez l'apparition du rappel. C'est de la pure attention, celle que nous avons déjà évoquée. 1. Programmer un rappel unique. Comme son nom l'indique, ce rappel ne doit être activé qu'une seule fois. Pour cela, nous allons partir du principe que vous n'êtes pas attentif à tout ce qui est normal dans votre quotidien. Pour activer votre rappel, nous allons volontairement créer une rupture de cette normalité. Choisissez un élément fort qui va servir de déclencheur. Ça peut être un objet, un lieu, une personne. Il doit être adapté à ce que vous allez faire. Par exemple, imaginons que vous deviez absolument ramener du pain en rentrant du bureau. Cet élément doit être activable entre votre départ du bureau et votre arrivée chez vous. Vos clés de voiture feront très bien l'affaire. Modifiez votre élément pour créer une anomalie qui va activer votre attention, vous raccrocher au moment présent et donc vous rappeler pourquoi vous aviez mis cela en place. Pour les clés, si vous les rangez toujours dans votre poche de pantalon, alors placez les clés dans votre manteau. Le simple fait de les chercher dans votre pantalon, par habitude, et de ne pas les trouver, l'anomalie, vous rappellera d'aller acheter du pain. Une anomalie qui fonctionne très bien à notre époque est de changer temporairement le code de déverrouillage de son téléphone portable. Vous préférerez peut-être changer simplement de fond d'écran pour la journée. Comprenez que tout dépend du moment où vous voulez que votre rappel s'active. Vous pouvez également changer un objet très utile de place ou dévisser l'ampoule de la pièce où vous allez rentrer en ayant quelque chose à faire. Dans les exemples que j'ai utilisés et qui fonctionnent bien, il y a le fait de changer sa montre de poignet, d'enlever les piles de la télécommande de télévision, de dérégler le rétroviseur central de la voiture, de retourner à l'envers une manche de mon manteau en rentrant quelque part, etc. 2. Programmer une alerte récurrente. Évidemment, programmer un rappel récurrent va être plus long et son efficacité ne sera jamais opérationnelle à 100%. Ce rappel dépendra de votre fatigue, de votre stress, de votre attention et du temps que vous aurez consacré à le créer. Néanmoins, une fois ancré, il devient une habitude et c'est gagné. Vous ne l'oublierez plus. Par exemple, vous n'oubliez pas de vous laver les dents le matin. Il s'agit bien d'une habitude. Les techniques se découpent en 5 étapes rapides, réalisées au calme, dans un lieu où vous ne serez pas dérangé. La répétition étant l'amie de la mémoire, vous devrez le refaire au moins une fois par jour pendant 3 à 7 jours d'affilée. Pour clarifier les étapes, imaginons que vous vouliez vous souvenir d'acheter des fleurs à chaque fois que vous quittez votre travail. Quelle charmante attention! 1. Asseyez-vous de manière confortable, au calme, téléphone coupé. 2. Placez votre attention sur votre respiration durant 2 minutes. Observez vos inspirations et vos expirations. Imaginez l'air qui rentre et sort de vos poumons. Vous allez vous relaxer et ralentir légèrement votre rythme cardiaque. 3. Visualisez la porte de votre bureau, que vous empruntez pour quitter votre travail. Voyez-la comme vous la voyez réellement lorsque vous partez. Imaginez votre main se posant sur la poignée. Vous devez vous voir au travers de vos yeux et non comme un spectateur de la scène. Ressentez le contact de la poignée, sa température, voyez votre bras, votre main, peut-être même pouvez-vous voir votre nez, constamment dans votre champ de vision mais que vous oubliez. Et je sais que vous êtes en train de vérifier en louchant un petit peu. 4. Visualisez de nouveau la scène en imaginant que vous avez un bouquet de fleurs dans les mains. Choisissez les fleurs, les couleurs, les odeurs. Ouvrez de nouveau mentalement cette porte en intégrant ce bouquet qui va complexifier l'appui sur la poignée puisque votre main est encombrée. 5. Pour terminer, imaginez de nouveau la scène avec le bouquet et, en ouvrant la porte, vous voyez que vous êtes chez un fleuriste. Des fleurs partout, qui font n'importe quoi. Elles chantent, comme dans le dessin animé « Alice au pays des merveilles ». Jouez ce scénario plusieurs fois. Vous voici armé pour programmer vos rappels personnels. Les petits oublis de la vie quotidienne sont donc souvent dus à un manque d'attention, qu'ils soient liés à une forme de stress ou, au contraire, à cause d'une forme de routine.
Heureusement que Fabien avait dit qu'il ne m'interrompait que pour une astuce. Alors autant mémoriser demande de l'attention et de la concentration, autant oublier se fait de manière inconsciente. D'ailleurs, essayez d'oublier consciemment quelque chose que vous avez déjà mémorisé, un nom, une image, un souvenir. Vous y arrivez ? Non, c'est quasiment impossible. Repensez au chemin dans la jungle. Vous ne pouvez pas l'effacer d'une pensée magique. Seul le temps ou alors un jardinier de génie arriverait à le faire disparaître. Une fois les opérations d'encodage et de stockage correctement effectuées, votre cerveau oublie peu, même si l'accès à certains souvenirs est parfois bloqué.
Lors de mes propres recherches, j'ai théorisé quelque chose que j'appelle la data mémoire. Pour moi, c'est une explication qui tend à nous faire comprendre le principe des connexions entre les souvenirs. Lorsqu'un souvenir ou une donnée est déconnecté du système, il reste une trace accessible vous indiquant qu'elle existe. Imaginez qu'une personne tienne un registre à jour, servant à noter le nom des informations que vous avez en stock et leur emplacement. L'encre utilisée pour spécifier l'emplacement de la donnée s'efface plus rapidement que l'encre utilisée pour noter le nom des informations. On vous a peut-être déjà demandé le nom d'un acteur qui joue dans tel ou tel film, et vous avez répondu « Je ne l'ai plus, mais je le sais ». C'est la data mémoire. Vous savez que vous le savez, mais vous ne le savez plus. Votre cerveau est quand même facétieux, capable de vous rappeler qu'il a l'information quelque part, mais qu'il ne sait plus où. Si l'information vous revient, avec ou sans aide, elle sera de nouveau accessible dans les jours qui suivent.
Pour conclure, le propre de la mémoire n'est pas de sauvegarder tous nos faits et gestes, ni tous nos souvenirs qui resteraient alors figés dans notre cerveau ad vitam aeternam. Notre mémoire n'est pas juste un album photo poussiéreux de notre vie depuis l'âge de 3 ans. Non, elle nous sert surtout à analyser, à synthétiser, donc à supprimer le superflu pour ne conserver que l'essentiel, à confronter les informations présentes à nos connaissances passées pour nous projeter dans l'avenir. En un mot, notre mémoire nous sert à apprendre.
Et à créer, à penser, à un peu tout en fait. Notre cerveau a un fonctionnement basé sur la comparaison et l'association d'idées. Le contenu de la mémoire est donc la matière première pour continuer d'apprendre, mais aussi pour imaginer des solutions, prendre des décisions, avoir un avis et obtenir de nouvelles idées.
Les processus de mémorisation ne cessent d'osciller entre consolidation et oubli, altérant nos souvenirs jour après jour. Mémoire et oubli sont bien les deux faces de la même pièce. D'ailleurs, ne rien oublier est une pathologie.